Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
Érosmose. Érotisme. Coquinerie. Sexualité. Sur Osmose Radio.
Salut chers petits coquins, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous êtes les bienvenus dans Érosmose, l'émission érotique et l'émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité sur Osmose Radio. C'est vraiment un grand plaisir, et je mâche mes mots, de vous retrouver chers amis pour une troisième saison de cette émission un petit peu spéciale, un petit peu friponne, un petit peu coquine. Voilà, et évidemment je ne suis pas tout seul pour
Mais
vous
non,
parler
tu
de
n'es
tout
pas
ça.
Tout seul.
Parce qu'il y a celle qui, si elle ne chante pas, a sûrement une des voix qui a enjôlé le plus d'auditeurs de la radio française. C'est Laurence, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos amis techniciens Jordan et Nordine, bonsoir les petites coquines, puisqu'il a salué les fripons, je salue les friponnes. Très heureuse de vous retrouver en compagnie de Stéphane. Alors oui, on va partir sur une émission intéressante, un petit peu sexy, hein, mais pas que.
Mais pas que, puisqu'on respecte la parité dans cette émission, on respecte aussi une diversité de thèmes, mais ce qui est une constante en ce qui nous concerne, puisque pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas l'émission et qui la découvrent ce soir, eh bien je dois vous préciser tout simplement que le concept de l'émission, eh bien c'est de parler de thèmes un petit peu sulfureux, on le reconnaît volontiers, hein, liés à l'érotisme, à la sexualité et plus généralement aux zizi sexuels. Voilà. Et du coup, ben, je pense que les pudibons, les grincheux auront compris qu'ils nous trouveront rien ici, hein, parce que sur Érosmose, dans Érosmose, Laurence et moi, on met quand même un point d'honneur à ne jamais être vulgaire. On ne fait pas preuve de vulgarité, même si parfois,
on
par la force des choses...
On aime la grossièreté, mais pas la vulgarité.
Voilà, on est un petit peu grivois, hein, même on aborde des sujets un peu paillards, ça va être notamment le cas ce soir, mais on n'est jamais vulgaire. Donc pour la vulgarité, vous allez sur RTL ou sur Europe 1, hein, mais chez nous, ce n'est pas trop le genre de la maison. Et les grincheux, évidemment, auront compris que si vous êtes rebutés par des mots, par des gros mots un petit peu sulfurés comme zizi, vagin, sexe ou au capitalisme, mais du coup vous allez être un petit peu choqué à l'écoute de l'émission de ce soir, parce que notre thème en cette émission de rentrée, en ce mois d'octobre, eh bien c'est le thème du dirty blues, le blues sale comme disent les Américains, c'est-à-dire le blues qui a des paroles un petit peu explicites. Et pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, en ces belles journées où on profite de l'été indien, et pour faire un petit clin d'œil au festival de blues d'Avignon, enfin qui s'est délocalisé à Château-Renard récemment, qui a lieu chaque année au mois d'octobre, justement, eh bien ça nous paraissait opportun, aujourd'hui, en ce mois d'octobre, cette émission de mois d'octobre d'Érosmose, de parler du blues, du dirty blues. Et pour nous mettre dans l'ambiance, disais-je, eh bien je vous propose de commencer avec une dame qui a donné une version assez personnelle de l'opéra Porgy and Bess, avec le fameux titre Summertime, c'était Janis Joplin.
Thank you.
you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na. Don't you cry.
Décidément, je me lasserai jamais de cette voix, encore que je me demande, après avoir écouté ce titre, Summertime de Janis Joplin, si c'était vraiment le bon morceau pour commencer cette émission, parce qu'on est toujours un peu scotché après, et ça donne un sentiment de torpeur qui correspond bien à ces jours d'été indiens qu'on traverse en ce moment et qui correspond un petit peu à ce titre. Summertime, en intro de cette émission ce soir, d'Erosmos, chers amis, où on va parler un petit peu de blues, et notamment du blues un peu coquin, du blues qui a des paroles explicites, du blues souvent dans lequel se sont illustrées beaucoup, beaucoup de femmes qui sont pourtant souvent méconnues. Quand on pense au blues, on pense surtout à des grands guitaristes comme B.B. King ou John Lee Hooker. On pense à des gens qui sont virtuoses de l'instrument à six cordes. On pense à des grandes voix masculines ou des obscurs bluesmen des années 1920. Les femmes sont un petit peu en retrait, c'est bien dommage. On va leur rendre justice ce soir, justement. Mais justement.
Et comment?
Et la question aussi qui se pose, une des premières questions qu'on devrait se poser, histoire de contextualiser un petit peu le truc, c'est quoi le blues déjà? Et tout à l'heure, tu m'as dit que le blues, ça venait d'un mot d'argot américain, non?
Alors oui, en fait, je vais vous expliquer. Oui, d'abord, il n'y a pas qu'une forme de blues, hein, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les citer. Il y avait par exemple, dans les courants, il y avait le Delta Blues qui date de 1900.
Le Delta du Mississippi, on entend.
C'est ça. Le Piedmont Blues 1920 qui était plus ragtime, boogie, woogie. Le California Blues des années 40. Le Chicago Blues de 1950. Le Texas Blues 1960, etc. Et en fait, l'abréviation, le mot blues vient de l'abréviation de l'expression, c'est Blue Devils. Alors, c'est les diables bleus, et en fait, ça signifie les idées noires. C'est une expression.
Mais je me demande si les Blue Devils, c'était pas justement
un
régiment de l'armée nordiste qui était composé uniquement de noirs pendant la guerre de sécession.
Alors,
là, je suis pas très sûr de moi, à vérifier. Hein.
Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle les Blue Devils ou les Devil Blues, je confirmerai aussi mes dires. Et puisque tu parles de ça, je voudrais juste faire un petit rappel historique quand même sur ce qui s'est passé. On est dans les années 1860 jusqu'à 1865, c'est la guerre de sécession. À partir de 1865 jusqu'en 1869, c'est l'abolition de l'esclavage. En 1876, les États du Sud nomment les lois Jim Crow, c'est la ségrégation. Mmh. 1896, c'est l'arrêt Plessy contre Ferguson et Washington légalise la ségrégation dans tout le pays par l'hypocrite separate but equal.
Ça signifie
séparés, mais égaux.
D'accord.
Tu parles. 1954, c'est le mouvement pour les droits civiques avec Martin Luther King. 1954, c'est également le Civil Rights Act, c'est la fin de la ségrégation. Et en 1965, je fais court, hein, c'est le Voting Rights Act, c'est la fin des examens et taxes pour devenir électeur. Parce qu'on est là, nous, on a choisi quand même une décennie particulière, les chanteurs de blues, les musiciens jouaient du blues, ne rentraient pas dans les hôtels. Ils jouaient dans les hôtels, mais ils n'avaient surtout pas le droit d'y loger. Ils n'avaient pas non plus le droit de boire une consommation dans un bar, dans un bar qui était occupé par des blancs. Et bien entendu, s'ils avaient des besoins urgents, eh bien, ils devaient aller dans les toilettes qui leur étaient destinées. Colored people et white people.
Et le cinéma américain, a, malgré l'hypocrisie de la société américaine et sa pudibonderie, on y reviendra tout à l'heure, a quand même su illustrer avec talent parfois ces injustices qui nous apparaissent en tout cas comme des injustices avec le recul. Notamment, je pense au film Mississippi Burning, qui parlait justement donc, de la fin de la ségrégation dans les États du Sud, ainsi que le très bon film de Clint Eastwood, Honky Tonk Man, qui montre un petit peu dans ces périodes d'après la Grande Dépression, des musiciens blancs et des musiciens noirs qui se côtoient sans en avoir le droit, parce que finalement ils font partie de la même classe sociale, ils ont les mêmes emmerdements, mais bon, ça a été difficile à admettre dans un pays aussi raciste, voilà. Et du coup, ben, les femmes ont vraiment pris part à ce grand mouvement culturel qu'a été le blues, notamment et la musique attenante. Et donc tu as résumé un petit peu les différents types de blues qui correspondent finalement au mouvement migratoire des noirs au sein des États-Unis, hein, le Chicago blues qui s'électrifie quand les mecs vont bosser dans les abattoirs de Chicago au lieu de bosser dans les champs de coton comme c'était le cas avec le Delta blues dont tu parlais à l'instant. Et bien justement, ça nous parle du travail, parce que ces gens immigrent mais c'est pour trouver du boulot. Et finalement, c'est quoi le blues? C'est une musique à la base qui est plutôt un chant de travail, parce que si on la contextualise, je vais y arriver, en fonction de l'histoire, de la géographie, tout ça, c'est prend naissance dans les États du Sud des États-Unis, le Mississippi, la Louisiane, tout ça, et ça prend naissance au moment où la société est encore esclavagiste au début du 19e siècle.
C'est ça d'ailleurs, ça s'appelle le work song. Hein.
Chant de travail, hein, tout simplement. Travail, hein. Alors, c'est pas propre aux États-Unis, il y en a partout, il y en a au Vietnam, il y en avait chez nous, dans le delta du Rhône, hein, c'est pas le même delta blues, mais les gardiens qui cultivaient le riz, eux aussi, ils chantaient en travaillant, parce qu'en fait, ça te donne un rythme, ça te donne un truc, ça te permet de garder une certaine productivité, c'est tout con, et puis de garder le rythme et de bosser bien ensemble, quoi. Donc, c'est là aussi que c'est pas seulement une question d'histoire de géographie et de répartition, mais aussi une question de classe sociale. À partir du moment où on est travailleurs et on utilise ces champs de travail. Finalement, c'est quoi aussi la vie du travailleur après ces 12-14 heures passées dans les champs ou à l'usine? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Peut-être de se reposer un peu, de manger. Enfin bref, les processus nécessaires à la vie, quoi, parce que sa vie ne compte pas beaucoup de loisirs, hélas. Du coup, le rythme du travailleur, pour reprendre une expression que donnait un jour un Irlandais qui connaissait un petit peu les choses pour avoir bossé en usine, il disait le rythme du travailleur, c'est la baise et l'usine, point barre. Le rythme de l'usine, le rythme du travail et ensuite le rythme de la baise qui lui aussi est un petit peu plus plus langoureux, plus voluptueux, mais qui est aussi un rythme assez effréné, voilà. Et en ce sens, parfois, ça c'est quand on le vit de manière positive, c'est-à-dire quand le soir on va retrouver sa belle après une dure journée de travail et qu'on va faire des câlins, mais parfois ça peut être aussi un souvenir, ça peut être vécu de manière plutôt négative quand on est par exemple, pour avoir fait, comme c'était le cas de beaucoup de noirs notamment pendant la prohibition, qui n'avaient d'autres ressources que faire du trafic d'alcool dans les années 1910 et 1920, et alors que c'était interdit, et les premiers à aller en prison, à aller au bagne, et bien évidemment c'était eux quand ils se faisaient choper par la police, qui n'était pas encore le FBI, mais qui était la police qui contrôlait un petit peu les débits de boissons. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui, derrière les murs sombres de leur cachot, pensaient aux femmes, et aussi, même si c'est une population minoritaire dans les prisons, les femmes, souvent, qui étaient allées en prison pour des histoires d'amour. D'ailleurs, elles s'auto-accusaient d'un crime pour couvrir leur bonhomme, par exemple. Les femmes en prison, c'est souvent des histoires d'amour. Il y a des sociologues qui ont bossé là-dessus.
C'est forcément passionnel. La femme ne tue pas pour rien.
Pas pour l'argent, en général, contrairement à son bonhomme. Mais c'est vrai qu'il y a des sociologues qui ont bossé là-dessus. Je ne vais pas développer ce soir. Mais je vous prie de me croire. Et du coup, une femme qui avait bien mis ça en musique, justement, sur cette nostalgie du sexe, de l'amour en général, de la tendresse qu'on peut éprouver quand on est seul dans sa cellule, dans un sombre cachot, c'était Bessie Smith qui avait chanté une chanson qui parlait de ça justement, Jailhouse Blues, où notamment aussi elle réfléchit au fait que peut-être qu'elle est en train de passer ses plus belles années de sa vie, où elle est encore jeune et belle, alors qu'elle est enfermée et qu'elle aimerait être libre justement pour profiter de tout ça, et peut-être que quand elle sortira, elle sera vieille et du coup ce sera trop tard, voilà. Il y a ces réflexions-là aussi dans ces chansons. Et bien justement, Bessie Smith, qui est une des grandes dames du panthéon des chanteuses de blues, vous avez peut-être entendu déjà parler d'elle, parmi bien d'autres, comme des plus célèbres, comme Billie Holiday, tout ça. Et bien Bessie Smith, justement, tu t'es penchée un petit peu sur un de ses poèmes, sinon une de ses chansons.
Alors, je me suis penchée sur Bessie Smith, et puis tu parlais de prison. Alors, en me penchant sur Bessie Smith, j'y suis allée grâce à Angela Davis, qui elle-même a fait quand même de la prison. Elle avait été condamnée à mort, la grande Angela Davis, le mouvement des Black Panthers, Jordan, tu étais trop jeune, tu n'étais peut-être même pas née. Mais Angela Davis a écrit un bouquin qui s'appelle « Blues et féminisme » avec Gertrude. Donc Gertrude, c'est ma Renée, Bessie Smith et Billie Holiday. Elle a pris ces trois personnages pour parler de son étude, qui est une étude extrêmement bien faite. Et quand on arrive à Bessie Smith, on apprend que la petite Bessie, qui était quand même... elle était bisexuelle, mais elle le disait clairement. Elle était affranchie, comme on peut l'être.
Mais dans l'émission, dans les milieux interlopes un peu d'artistes de l'époque, c'est quelque chose qui s'assumait plus facilement.
Oui, mais complètement. Mais bon, Bessie, elle a un petit peu défoncé des portes. Et elle a écrit... Enfin, elle a chanté pas mal de chansons. Il y en a une en particulier qui s'appelle... I need a little sugar in my bowl. Alors, c'est une chanson de 1931. Je ne vais pas vous la faire en anglais, mais je vais vous expliquer quand même. Il y a des paroles où elle dit, alors je vous le fais en anglais quand même, I need a little sugar in my bowl. I need a little hot dog on my roll. Puis après, je vous expliquerai.
Move your finger.
Oui. Move your finger. Drop something in my bowl. I need a little steam hot on my floor. Et encore, looks like a snake. Come on here and drop something here in my bowl. Alors, comme elle était coquinou, Bessie, si tu veux, en gros, ça dit, comme elle n'avait pas non plus la langue dans sa poche, eh ben, elle a multiplié l'emploi du second niveau de lecture. Aussi, quand elle se lamente sur cette chanson « I need a little sugar in my bowl », qui, je le rappelle, date de 1931, elle ne souffre pas d'hypoglycémie, mais se trouve bien en manque de stupre.
Pas en manque de sucre, mais en manque de stupre. De stupre. Bien joué.
Voilà. Donc, elle est. Bessie, c'est celle qu'on appelle l'impératrice du blues. Alors, quand on se penche un peu sur la question, quand elles n'ont pas été impératrices, elles ont été reines du blues, princesses du blues. Mais bon, elles avaient quand même. À leur niveau, elles ont fait pas mal de choses. Qu'on aime ou n'aime pas le blues de ces années-là, moi, je m'y suis intéressée grâce à toi. Il y a quand même des choses passionnantes, il y a des voix passionnantes. Billie Holiday qui arrive un petit peu plus tard et cette fameuse chanson qu'on connaît, ou au moins on l'a déjà entendu, c'est Strange Fruit, mais là c'est plus sur le lynchage des Noirs.
Il ne s'agit pas du fruit défendu en l'occurrence, c'est vrai.
C'est une chanson terrible, hein, mais ce n'est pas la même voix, Billie Holiday. On n'est pas dans Ma Rainey, on n'est pas dans Bessie Smith, on est dans un autre caractère. Mais enfin, l'ouvrage d'Angela Davis, elle, s'est vraiment intéressée à ces trois-là, et dans son étude sociale, et ben, on y reviendra peut-être tout à l'heure, elle met en évidence un certain nombre de choses. Je te dis juste comme ça que les chanteuses de blues de l'époque ne se posaient pas en victime. Au contraire, elles pouvaient même affirmer les mêmes désirs sexuels que les hommes. On est quand même dans les années 20, hein, entre 20 et 30. Comme la subordination des femmes, contre la subordination des femmes, elles adoptent les mêmes tendances pour l'ivresse, la danse et le sexe. Et leurs chansons ne se conforment pas au modèle de l'amour romantique qui idéalise les hommes comme des princes charmants. Le bonheur des femmes est même associé au désir sexuel plus qu'à l'amour fusionnel. Entre autres, hein, il y a eu pas mal de petites choses, hein, parce que le blues a attaqué aussi le patriarcat. On a une chanson qui disait « Pas le temps de me marier, pas le temps de m'installer, je suis une jeune femme et je n'ai pas fini d'aller voir de droite à gauche » et c'est encore Bessie Smith qui le dit dans « Young Woman's Blues ».
Mais en même temps, je me dis que les femmes des classes populaires ont peut-être plus de hargne quand il s'agit de parler de ça, parce que les hommes qui subissent la violence dans le milieu du travail sont plus portés, même si c'est pas des mauvais gars dans le fond, parfois à la faire subir aux plus faibles qu'eux, c'est-à-dire les enfants et leur bonne femme, quoi. Et du coup, subissant la violence des hommes en plus de la violence du système patriarcal, elles sont plus, je pense qu'elles auront une hargne aussi, une tendance à le dénoncer dans leurs chansons, et ça, c'est vrai que c'est assez fort.
Mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le bouquin d'Angela Davis, hein. Elle chante le Sud, hein, celui des Neufs de Scottsboro, tu sais, des jeunes hommes condamnés à mort de façon expéditive en 1933 pour des viols qu'ils n'avaient pas commis. Et puis des femmes qui chantaient le voyage, la liberté de mouvement après des décennies d'esclavage. Des amantes dont les daddies, hein, parce qu'elle les appelait souvent, tu sais, daddy, et trimardées dans chaque région des États-Unis. Donc, ça a un sens. Hein, c'est une musique qui a un sens, qu'on l'aime ou pas, avec des textes qui ont aussi beaucoup de sens.
Eh bien, tu vois, pour ce sera un petit peu la réponse du berger à la bergère, pour rebondir justement sur ce que tu disais à l'instant et revenir un petit peu vers les textes qui sont un petit peu parfois la limite de la chanson paillarde. Dans le Dirty Blues dont on parle ce soir, le blues un peu coquin, eh bien justement, il y a parmi ces chanteuses méconnues, il y en avait une qui s'appelait Gishy Wiley. Elle correspond vraiment au blues rural du sud des États-Unis. Hein. Et en fait, pour aller dans le sens de ce que tu disais à l'instant, c'est vrai qu'elle avait des chansons où c'est un petit peu des chansons de mente religieuse, entre guillemets. Je veux dire par là que c'est une chanson que je ne vais pas vous fredonner pour vous écorger les oreilles, chers amis. Et j'ai renoncé à vous passer un fichier audio parce que, hélas, les sons sont vraiment trop dégueulasses. Mais je vous mettrai ça évidemment sur Facebook si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'écouter par vous-même. Mais moi, je vais quand même vous parler un petit peu du texte de cette chanson qui s'appelle Skinny Leg Blues, où en fait, elle se révèle être un petit peu mente religieuse. Et c'est une manière assez comique de dénoncer le patriarcat, comme tu le disais à l'instant. Alors, je vous récite ça, c'est « And I'm a little bitty mama, baby, and I ain't built for speed. I've got everything that a little bitty mama needs. I've got little bitty legs, keep up these noble thighs. I've got something underneath them that works like a bohog high. But when you see me coming, pull down your window blind so your next door neighbor suit can hear you. Wine. I'm gonna cut your throat, baby. Gonna look down in your face. I'm gonna let some lonesome graveyard be your resting place.
Ah oui, quand même.
Maintenant, je vous traduis. Alors, je suis un petit bout de bonne femme et je suis pas faite pour aller vite. J'ai tout ce qu'il faut, par contre, qu'un petit bout de bonne femme dont un petit bout de femme a besoin. J'ai des petites jambes maigres. Regarde ces belles cuisses, quand même. Et par contre, j'ai quelque chose au milieu qui fonctionne comme un beau hog's eye. Alors là, ça, je dois traduire, mais en fait, c'est un hog's eye, c'est une métaphore, un mot d'argot pour dire le vagin, et boar, c'est le cochon sauvage. Donc j'ai un vagin de cochon sauvage. Je vous laisse imaginer un petit peu la puissance de la métaphore. Voilà. Ensuite, but when you see me coming, alors quand tu me vois arriver chez toi, surtout entrebâille la fenêtre afin que ton voisin puisse t'entendre gémir. Pourquoi? Parce que je vais te découper la gorge et je vais te regarder dans les yeux et je vais faire une jolie petite tombe solitaire qui restera ton dernier lieu. Voilà, mon cher.
Waouh,
Gishy Wiley. Donc vous voyez, c'est assez drôle, assez violent aussi par contre, hein. Et ça, pour aller dans le sens de ce que tu disais, ça parlait un petit peu une contestation sociale sous des oripeaux de chansons comiques et paillardes, voilà. Et pour vous donner un petit peu un exemple quand même en musique, pour y venir quand même enfin, je vais vous donner là encore une chanson qui est un petit peu dans le même ordre d'idées, mais sans le côté contestation sociale. C'était Lucille Bogan, qui elle aussi avait une chanson aux paroles vraiment olé olé. Hein. D'ailleurs, je vous les traduirai tout à l'heure, je ne vais pas vous dire ça tout de suite. Tout de suite, on écoute « Shaved and Dry ».
I got nipples on my titties, big as the end of my thumb. I got something between my legs, I'll make a dead man come. Oh, daddy, baby, won't you shave them dry?
No, no, no.
Want you to grind me, baby, grind me until I cry. Say I fucked all night and all the night before, baby. And I feel just like I want to fuck some more. Oh, great God, daddy, grind me, honey, shave me dry. And when you hear me holler, baby, I want you to shave me dry. I got nipples on my titty, big as the end of my thumb. Daddy, you say that's the kind of woman you want, and you can make them come. Oh, daddy, shave me dry. And I give you something, baby, swear it'll make you cry. I'm gonna turn back my mattress and let you oil my springs. I want you to find me, daddy, till the bell do ring. Oh, daddy, want you to shave and dry. Oh, great God, daddy, if you can't shave them, baby, won't you try? Now, if fucking was a thing that would take me to heaven, I'd be fucking in the studio till the clock strike 11. Oh, daddy, daddy, shave them dry. I would fuck you, baby, honey, I'd make you cry. Now your nuts hang down like a damn bell clapper, and your dick stands up like a steeple. Your goddamn asshole stands open like a church door, and the crab walks in like people. Ow! Shit! Ah, shut up! Woo! Baby won't shave them dry. A big sow gets fat from eating corn, and a pig gets fat from sucking. When you see this whore fat like I am, great God, I got fat from fucking. Yee! Shave them dry.
Oh, brush. Don't brush it.
My back is made of whalebone, and my cock is made of brass, and my fucking is made for working men's $2. Red garden round to kiss my ass. Oh! Woo! Daddy, shave him dry.
All right! Mesdames et messieurs, un petit chanson about la petite chatte Rosa. The little pink pussy. Does anybody here like pussy? One person. Well,
two.
Oh, two. Deux.
Three.
Four. Trois. Quatre. Okay. Un petit chat. Yum, yum, yum. Tastes like poulet. Je suis un chat très moyen. Okay. Ready? There's one pet I love to pet. Every evening we get set, I stroke it. Every chance I get, that's right. It's my girl's pussy. Seldom plays and it never purrs, but I love. I don't mind because it's hers. It's my girl's pussy. Often it goes out at night and returns at the break of dawn. No matter what the weather's like, it's always nice and warm. That's right, folks. I have a very show pussy up here. Why, it's never dirty. Sorry. Always clean. Give me the rules, it's never mean. It's the best I've ever seen. It's my girl's pussy. Tidbits that it loves, and we spoon like two turtle doves. Take care to remove my gloves when stroking my girl's pussy.
C'est sûr que si vous avez la chance de comprendre l'anglais, vous avez dû vous régaler.
Est-ce que excusez-moi. Donc, c'était une chanson, je vous avais dit, hein, ce sera un petit peu paillard ce soir. Et là, à l'instant, vous venez d'écouter Suzanne... Suzanne Ramsey, voilà, une artiste de cabaret contemporaine qui avait repris ce vieux titre de blues qui s'appelle My Girl's Pussy, la chatte de ma petite amie. Et donc, c'est une chanson qui, en fait, comme certains poèmes de Madame de Sévigné que tu nous avais ramené il y a un an de cela, Laurence, qui a priori n'ont absolument rien de sexuel, hein, c'est une forme de sous-entendu, etc. Donc, il y a un petit animal que j'aime bien caresser, qui est toujours tout doux, tout chaud, tout moite, et toujours gentil, qui m'accueille en ronronnant. Voilà, c'est la chatte de ma petite amie. Voilà. Donc, vous comprenez ce que vous voulez. Hein. A priori, il n'y a pas rien de vulgaire dans le morceau que vous venez d'écouter à l'instant, dans la version originale d'ailleurs. C'était dans les années 1920.
C'est enlevé. Hein. T'as le rythme, il est enlevé. Moi, j'aime beaucoup.
Mais je crois que ça correspond un petit peu au country blues dont tu parlais tout à l'heure. Donc, plutôt orienté musique des hillbillies, musique avec du banjo, etc. Un peu le blues que Robert Crumb aime à réinterpréter de nos jours, cet auteur de bande dessinée alternatif, grâce auquel j'ai découvert beaucoup sur le blues, parce que lui est un grand passionné. Il a une collection de 78 tours et des shellacs, ces vieux vinyles des années d'il y a fort longtemps, assez impressionnante. Et dans certains documentaires, dans certains podcasts, j'ai pu apprendre beaucoup grâce à lui. Voilà. Et il réinterprétait notamment avec son petit groupe ce morceau, dont l'original était de Harry Roy, il me semble, et que là on venait d'écouter dans une version cabaret avec un français à la mort moelle d'oie et un fort accent américain par Suzanne Ramsey. Voilà, et juste avant cela, eh bien, c'était un morceau, une archive sonore très intéressante de Lucille Bogan, hein, une de ces princesses méconnues, une de ces grandes dames des temps lointains, qui interprétait donc ce Dirty Blues dont on parle ce soir dans Erosmos, chers amis, et avec ce titre Shave and Dry, dont je vais vous donner quelques petits éléments de traduction tout de suite pour que vous puissiez en profiter un peu. I got nipples on my titties big as the hand of my thumb. I got something between my legs that will make dad man come. Oh daddy baby, won't you shave and dry? Oui. Voilà. Donc, je me limite à la première strophe, mais vous aurez compris sans doute qu'elle a des tétons qui sont avec de larges aréoles. Elle a quelque chose entre les jambes qui réveillerait un mort. Ouh, mon petit père, ne vas-tu pas venir shaves and dry? Donc, littéralement, ce serait le raser à sec. Mais évidemment, ça parle d'un geste, celui du barbier chez lequel les gens allaient en l'occurrence, qui serait peut-être un peu brutal. Mais là, en l'occurrence, on parle d'une autre manière d'être un petit peu rasoir, voilà. Et donc voilà, c'était un petit peu le propos, le thème et le texte et le thème ce soir. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Osmose Radio, chers amis, eh bien c'est le blues un peu coquin que les Américains appellent le dirty blues. Vous êtes bien dans Erosmose avec Laurence, avec Stéphane, avec Jordan et Nourdine derrière la régie
la console
technique.
De jeu.
D'ailleurs, messieurs, vous feriez bien de laisser vos deux mains bien en évidence sur la console,
voit,
sur les potards, hein, parce que sinon on pense que vous
ça chauffe dans le studio, mais quand même.
Oh, ils font des cochonneries avec une main sous la table et l'autre sur les potards des micros. Ah, les petits fripons. Tiens, d'ailleurs, les petits fripons, c'est aussi ceux qui nous écoutent derrière le poste et avec lesquels on est vraiment heureux de passer cette heure ensemble. Voilà. Et donc, ce soir, pour en revenir à notre thème, le blues un petit peu coquin, le blues un petit peu paillard aussi, parfois, dans les paroles, comme on vient de l'entendre un instant, eh bien, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui se limite à la période un petit peu fétiche des années 1920-1930, à une période vraiment fondatrice pour les genres de musique dont on a parlé ce soir. Hein. Tu disais tout à l'heure que Angela Davis avait s'était beaucoup intéressée à ce thème-là.
À trois personnes en particulier, à trois chanteuses en particulier, mais elle en a fait une étude sociale très intéressante. On peut y revenir rapidement, mais vas-y. Je te laisse terminer.
Et disons que à partir du moment où la communauté noire s'étiole entre guillemets dans tous les États-Unis, ça ne veut pas forcément dire que les textes ça s'agisse. C'est juste qu'ils se transforment, qu'ils évoluent. Un truc tout simple, par exemple, c'est que la musique blues est tout d'abord interprétée avec des instruments acoustiques, tout connement. Ne serait-ce parce que les instruments électriques n'existent pas encore, ou alors ils sont beaucoup trop trop onéreux. Et à partir du moment où il y a des blues, des noirs qui vont travailler à Chicago et qui interprètent le blues dans cette grande ville qu'on appelle Windy City, la ville du vent, un petit peu comme nous, Avignon, c'est aussi la ville du vent, vous me direz. Eh bien, à partir du moment où il y a des gens qui s'expatrient, ils emmènent avec eux leurs problèmes, leurs thématiques, leur culture et leur musique, mais ils la réinterprètent parfois avec d'autres instruments. Et notamment, à partir du moment où le blues s'électrifie, aux fins des années 50, début des années 60, eh bien, il y a des artistes de blues, là encore des femmes, qui savent réinterpréter un peu ce côté parfois un petit peu sulfureux, un petit peu tendancieux de certaines paroles des chansons. Alors, soit qu'elles les reprennent, soit qu'elles les détournent, soit qu'elles les composent. Et je pense notamment à une grande dame et du blues, et du rock'n'roll, et du rhythm and blues, c'est Rosetta Tharpe, qui est un petit peu l'équivalent, l'antithèse en fait, l'équivalent en négatif si j'ose dire, mais encore que ce soit pas très élégant de ma part, de ce que Elvis Presley a été pour les petits blancs des États-Unis. Cette femme, c'était une dame, dans les années 50, c'était déjà une dame un petit peu âgée, elle avait la cinquantaine, et elle jouait de la guitare, mais alors comme une déesse, c'était impressionnant, elle avait un sacré niveau technique. Ça a été, pour l'anecdote, ça a été une des premières, bien avant Jimi Hendrix, a utilisé le système de distorsion des sons, des cordes et donc des sons que captaient les micros, pour ceux qui s'intéressent à la technique guitare. Et donc cette dame, Rosetta Tharpe, l'industrie musicale l'a toujours rangée dans le rhythm and blues. Et là, c'est une classification qui a des relents de racisme, parce que Elvis Presley et Rosetta Tharpe faisaient quasiment la même musique, à deux, trois détails près. Enfin,
l'un était blanc, l'autre était noir.
Et l'un faisait du rock'n'roll, et l'autre, on disait, non, elle fait du rhythm and blues. C'est la même musique, putain. Et en fait,
Elle était noire, Rosetta ?
Rosetta Tharpe était noire, ouais. Donc une dame noire d'un certain âge, dans les années 50, alors que Elvis Presley, lui, était un jeune petit blanc. Et d'ailleurs, la communauté noire aux États-Unis, pour la plupart d'entre eux, sont vraiment pas bégueules, parce qu'ils idolâtrent un peu Elvis Presley, tout autant que les idoles du blues. Donc c'est tout à leur honneur, à mon humble avis. Bref, je ferme cette parenthèse. Et Rosetta Tharpe, je vous disais-je, elle a été une des premières à jouer du blues électrique avec de la guitare électrique. Et notamment, elle a fait... la musique a évolué, mais elle est restée parfois un petit peu dans ses textes un petit peu olé olé. J'en veux pour preuve le titre qu'on va écouter tout à l'heure, qui est en fait à la base un ancien négro spiritual. C'est pas un gospel, c'est pas un texte de l'évangile, mais c'est un texte un peu apocryphe, un chant en fait que chantaient les noirs qui se rassemblaient dans la nature ou dans leurs églises pour chanter les louanges du Seigneur, sauf que c'était pas un texte de la liturgie de l'Ancien Testament ou du Nouveau. Voilà. Et par contre, c'était quand même un texte d'origine sacrée, mais dans lequel il y a tellement de sous-entendus qu'en fait, ça pourrait très bien être un texte un petit peu olé olé, un texte où il y a des allusions sexuelles. Et rien que le titre, déjà, ça donne une petite idée. Ça s'appelle Rock Me, donc secoue-moi. Mais secoue-moi dans quel sens? Est-ce que c'est Dieu qui me secoue le cœur quand il s'adresse à moi ou quand je chante ses louanges? Ou est-ce que c'est toi, mon petit père, qui me secoue sous la couette et sur l'édredon, hein? Va savoir. Tout de suite, je vous propose d'écouter ça. Sister Rosetta Tharpe avec le titre Rock Me.
Wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bind me. But oh, if you leave me, I will die. Take me to your
home above. Make my journey brighter. You make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thou presence thrill me.
À l'instant, on écoutait Candy Kane avec un blues endiablé au piano. À part cette grande dame du blues, paix à son âme, elle est morte en 2016. Et à l'instant, c'était Masturbation Blues. Et c'était enchaîné juste avant avec une grande dame du rock, du blues, elle aussi. C'était Rosetta Tharpe avec le titre Rock Me, un secoue-moi dans tous les sens qu'on peut imaginer. Mais ça, je vous laisse vous-même vous en faire une idée. Voilà, chers amis. Candy Kane, c'est vraiment un personnage qui me tient à cœur pour de bonnes et de mauvaises raisons. Je vous expliquer ça tout de suite. Déjà parce que c'était quand même une femme exceptionnelle au niveau musical, hein, vous venez de vous en faire une idée par vous-même. Elle avait du coffre, elle jouait sacrément bien du piano et elle avait des chansons souvent qui, pour rester dans le thème de ce soir, conjuguaient avec humour des thèmes un petit peu osés, un peu sulfureux, clairement coquins et donc la musique blues qui nous tient à cœur ce soir. Et du coup, j'ai vraiment hésité, je ne savais pas trop quel morceau j'allais vous passer ce soir, donc finalement je vous ai passé Masturbation Blues, hein. On est tous passés par là à un moment ou un autre. Et elle a d'autres chansons qui sont, dont les titres sont vraiment marrants. Quoi. Par exemple, I'm on a bender, ce soir je me prends une cuite. Seven men a week, je me tape 7 mecs dans la semaine, un par jour, voilà. Que des titres un petit peu comme ça. Ah ouais, Babylon Boogie, hein. Babylon, vous savez que c'était la ville de la perdition dans, dans l'Ancien Testament. Voilà, voilà. Donc elle a toujours des chansons un petit peu comme ça. Elle les interprétait fort bien. Et quand je vous disais qu'elle jouait sacrément bien du piano, eh bien, elle avait quelque chose d'insolite aussi, c'est qu'elle en jouait avec ses seins. C'est-à-dire que comme c'était une, ce que les Américains appellent une BBW, une Big Beautiful Woman, elle était assez voluptueuse, assez ronde, et c'était une femme très très bien charpentée. Pour en revenir, elle était un petit peu comme dans les dessins de Robert Crumb, pour revenir à cet auteur-là, voilà. Donc c'était une femme qui avait un physique impressionnant, dans tous les sens du terme, et qui avait tellement de gros seins qu'elle pouvait jouer du piano avec, et je vous jure que c'était très impressionnant à voir. Et donc, elle martyrisait le clavier du piano avec ses boops, et ça donnait quelque chose d'assez génial.
Mais elle jouait pas seins nus.
Et non, 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 elle
se servait de son décolleté, de son...
Ah ben écoute, là, connaissant un petit peu le calibre de la dame, elle aurait tout à fait été capable d'en jouer seins nus. Mais en l'occurrence, les images que j'ai vues, moi, elle gardait tout de même son corsage, voilà. Et du coup, ben, c'était vraiment une dame assez formidable dans tous les sens du terme. Et elle a eu un parcours un peu singulier parce qu'elle a commencé au début des années 80 dans le cinéma pornographique. Oui. Et elle a été une star du porno en même temps qu'elle faisait sa carrière de chanteuse. Et au bout d'un moment, elle a arrêté le porno pour se consacrer vraiment à sa carrière de musicienne. Ceci jusqu'en 2016. Hélas, date de son décès, voilà. Et bon, le porno, bon, pour elle, ça s'était relativement bien passé, mais il y a quand même pas mal d'actrices qui peuvent vivre ça aussi comme une violence. Et la violence sexuelle, de toute façon, c'est aussi le cas de pas mal de femmes, notamment dans les classes populaires. Et comme tu le disais tout à l'heure, par rapport aux travaux d'Angela Davis. Et du coup, cette réaction aux violences sexuelles, c'est quelque chose d'assez légitime, finalement, dans la musique.
Oui, tout à fait. Mais juste, je voulais rappeler ceci, qu'effectivement, moi qui me suis plus intéressée au blues des années 20, excusez-moi, que dans ces fameuses chansons, l'amour et la sexualité, c'était les thématiques centrales du blues. Que la sexualité ne se réduisait pas à un problème privé, qu'elle est perçue comme une expérience partagée et un produit de la société, et que les chanteuses de blues évoquent d'autres thématiques comme le travail, la prison, on a parlé, ou la prostitution. Et le racisme et les inégalités sociales sont évidemment évoquées. Et également que les chansons de blues traitaient ouvertement des violences conjugales. Que le bon mode. Que le ton restait ironique et les commentateurs ont beaucoup reproché au blues sa complaisance. Dans la tradition de la musique noire, l'oppresseur est attaqué de manière subtile, mais les femmes ne restent pas enfermées dans une position de victime. Elles peuvent aussi réagir et se venger. Elles sont également capables de violence. Et les femmes noires refusent la norme de la féminité. Le blues des années 20 propose de nouveaux et différents modèles pour les femmes noires, plus affirmées, plus sexy, plus sexuellement consciente, plus indépendante, plus réaliste, plus complexe, plus vivante. Et ça, c'était une autre étude de Daphne Duval Harrison. Voilà, donc je crois que c'était intéressant sur cette décennie 1920 et le blues et le féminisme et les femmes. Voilà.
Voilà, et donc merci
de nous faire découvrir. On aurait pu disserter très longtemps, hein, mais...
Ce travail-là, c'est vrai. Alors voilà, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission, chers amis. Néanmoins, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, eh bien, j'ai envie de dire que cette précarité, entre guillemets, sociale et sexuelle, était le lot commun des femmes des classes populaires en général et de la communauté noire, en particulier aux États-Unis. Et du coup, ben, ça date pas d'hier, puisque déjà, parce qu'à l'instant, là, on vient d'écouter deux musiciennes contemporaines, hein. Candy Kane, c'était donc dans les années 90-2000, et Rosetta Tharpe, c'était dans les années 40 et 50, une noire, une blanche, mais toutes les deux sans doute le même genre d'ennui. Et par contre, bah, les femmes bien avant avaient le même genre de difficultés et commençaient leur vie sexuelle très tôt. Et à cette occasion, bah, je sais que c'est pas bien de piquer dans les podcasts des copains, mais là, je tiens quand même à vous faire écouter un petit passage d'une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture, un passage qui m'a un petit peu inspiré, justement, bah, les mêmes réflexions que toi en lisant Angela Davis. C'est-à-dire que ben, les femmes étaient dans ces situations tellement précaires socialement que leur vie sexuelle commençait très tôt. Et le blues, qui est à la fois un chant de travail et un chant pour accompagner le sexe et les mots d'esprit qui vont avec le sexe, eh bien, parfois pouvait aussi être le compagnon des jeux. Le blues pouvait accompagner des jeux de société dans lesquels ben, on s'entraînait à grandir, notamment quand on était petit, qu'on avait 10-12 ans et que ben, on jouait pour simuler notre vie d'adulte un peu plus tard. Et je vous propose d'écouter cet intermède tout de suite.
Dans le ghetto de caste du Delta, où les blues naquirent, filles et garçons commençaient tôt leur vie sexuelle. Et avant leurs 10 ans, ils étaient rompus aux relations intimes avec leurs camarades de jeu. Dès leurs 12 ou 13 ans, bien des filles étaient parties et mariées. Ce n'était pas trop tôt dans les familles pauvres. Bon nombre de jeux avaient pour principal intérêt d'apprendre à se débrouiller en société. Ils permettaient aux filles d'être très audacieuses dans la sécurité du cercle de danse, où les sensations érotiques étaient fortes. Dans ces jeux de cercle des noirs, tout le monde apprenait comment choisir et être choisi. On appelait ça « voler les partenaires ». Active sexuellement à 10 ou 11 ans, une fille de la campagne du Delta avait besoin de savoir trier les mâles pour son futur mariage. Le plus apprécié des jeux de vol de partenaires était celui qui avait pour refrain « satisfaite ».
I never been satisfied. I never been satisfied. Went down in satisfied. You ground feel satisfied. Rattlesnake bit me satisfied. On my heel satisfied. That didn't make me satisfied. That didn't make me satisfied. I never been satisfied. I never been satisfied. Been to the river satisfied. Been baptized satisfied. That didn't make me satisfied. That didn't make me satisfied. I never been satisfied. Went to the river satisfied. Been baptized satisfied. That didn't make me satisfied. I never been satisfied. I never been satisfied. Went down in satisfied. You ground feel satisfied. Grass snake bit me satisfied. On my heel satisfied. That didn't make me satisfied. Mama can't make me satisfied. Pop can't make me satisfied. I never been.
Il faut un rocking chair pour balancer, satisfaite. Il faut une balle douce pour rouler, satisfaite. Il faut une chanson comme celle-ci, satisfaite. Pour satisfaire mon âme, satisfaite. J'ai jamais été satisfaite. Ces jeunes filles noires chantaient satisfaites parfaitement et effrontément à l'unisson, avec un swing sensationnel et un claquement de mains décalé qui me filait des frissons dans le dos.
Voilà, donc des frissons dans le dos quand on écoute ces musiques populaires. On pourrait avoir les mêmes frissons en écoutant des musiques très très éloignées du blues, hein, pour ouvrir un petit peu le sujet. Pour ma part, c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de musique traditionnelle bretonne quand j'étais petit par rapport au contexte familial. Et je vous assure qu'écouter les Sœurs Goadec, ça peut être assez impressionnant aussi. Quand on écoute des chants de travail, du flamenco par exemple, le chant des gitans, ce qu'on appelle le blues andalou, hein, par extension. Certaines chansons écossaises, des chants de travail qui viennent de Géorgie, d'Ukraine ou même du Vietnam, parfois on ressent quelque chose de tellement puissant que c'est grisant et que ça fait des frissons dans le dos, comme ce journaliste l'exprimait un instant par rapport à ces chants de jeu, ces chants traditionnels du sud des États-Unis. Voilà, chers amis. Et du coup, ben, on aura un petit peu fait le tour. Il y aurait beaucoup plus à en dire, évidemment, mais on aura un petit peu fait le tour avec vous ce soir, mes chers petits fripons, de ce thème, donc le blues coquin, le dirty blues, tel qu'on l'appelle aux États-Unis, qui est un petit peu le thème d'Erosmose ce soir. Et on va se quitter comme notre habitude, avant de se quitter et par un dernier morceau, on va se quitter avec un petit peu de poésie, parce que s'il y en a une qui fait que le beau langage est présent sur Erosmose, c'est bien toi.
De belles surprises. Vous savez qu'en général je n'ai pas froid aux yeux, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Juste avant, pour un petit peu ponctuer cette émission, si vous aimez les livres, moi je me suis appuyée sur un certain nombre de livres que je vous cite quand même, donc Blues et Féminisme Noir, qui sont donc où l'ouvrage d'Angela Davis traite plus particulièrement de Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday. C'est une grande étude. Hein. C'est paru aux éditions Libertalia. Il y a un autre livre qui a été écrit par Stéphane Cochelin, je ne sais pas comment on dit, paru au Cahier Astral pour titre Des routes du Sud à la Vallée Heureuse. Et là, c'est vraiment axé sur Bessie Smith. Et puis, vous pouvez toujours lire aussi Blues d'Alain Gerber, qui est... un homme de jazz, Alain Gerber, mais jazz et blues ont toujours fait bon ménage, et littérature, jazz et blues font aussi bon ménage. C'est un grand auteur, Gerber, que j'aime beaucoup, c'est un homme de radio aussi. Bon, ben voilà, ça c'est les trois ouvrages sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et pour finir, c'est vrai qu'en général, je n'ai pas froid aux yeux et je vous livre des textes un petit peu comme ça, quoi, un petit peu coquinou.
Comme ça.
Et bien ce soir, je vais faire autre chose. Je vais vous lire des textes d'une dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Isabelle Voskaroudis. Isabelle, elle est comédienne, elle est clown, elle dessine, elle peint et elle écrit. Et elle écrit des choses magnifiques. Et elle a écrit dans le cadre d'un ouvrage collectif, les Hymeros, les petits souffles dedans. C'est vraiment des textes écrits pour un collectif qui était Déclinaison du désir. Alors, Hymeros, c'est l'un des trois...
C'est un mot qui vient du grec, en fait.
Tout à fait. Alors, il y avait Eros, le dieu Cupidon, le dieu de l'amour. Potos, c'est le dieu... du désir sensuel.
Potos, je croyais que c'était le dieu des amis. Les potos, non, c'est...
Non, alors, aussi, éventuellement, mais avec un désir un petit peu sensuel, pas, tu vois, pas cramponné.
Pas les copains d'abord que je t'embrasse.
Ouais, c'est ça. Et puis, Hymeros, c'est le dieu du désir. Alors, je vous cite juste sa légende. Hymeros était un beau jeune homme qui fut invité à une grande fête. Le soir, la fête battant son plein, le vin coulait à flot. Hymeros s'enivra avec excès. Dans son délire alcoolique, il jette son dévolu sur une jeune femme qui veut lui résister, alors il la viole, puis sombre dans les bras de Morphée jusqu'au lendemain matin. En se réveillant, une fois dégrisé, il apprend le scandale dont il fut l'instigateur. En effet, la veille, il a violé sa propre sœur. Fou de désespoir, il court sur la falaise qui domine de hautes gorges et se suicide en se jetant dans l'abîme. Zeus, ému de cet acte, le ressuscite et le rend immortel en faisant le dieu du désir. Alors le fleuve, c'était, je sais plus, il avait un joli nom, c'est pas l'Amazone, bah, tu vois, c'est pas celui-là. Mais bon, il avait un joli nom. C'est pas ça dont on va parler donc des livres, des poèmes d'Isabelle Voskaroudis, et vous pouvez les commander en passant par moi. C'est un petit recueil très beau. Et au hasard, hein, si je vous lis le premier, par exemple, parce qu'en plus, elle les a... on peut pas avoir, mais
alors les auditeurs peuvent pas voir, mais c'est un joli bouquin broché avec des illustrations,
avec des encres d'Isabelle elle-même.
C'est elle qui fait les illustrations de ce bouquin.
La photo de couverture a été faite par Claire Cacheloup. Le titre, c'est Les petits souffles du dedans. Et par exemple, si je prends le premier, et ben je vais vous le lire. Ta langue hésite, s'égare dans les plis de mon ventre, salive. Écume, tu déchires le voile d'un doigt avide, enfoncé, humidité chaude, la faim de toi en pensée me nourrit. J'écris le désir souple, ample, une volute sous un voile. Quand tu me touches des yeux, je m'égare, m'éparpille, vagabonde, je mène la danse et bouleverse tes éphémères, je m'envole, m'envoie en l'air, sous les voiles. Ta salive, elle lisse le centre de mon soleil. Voilà, c'est beau, hein. Alors, je vais vous en lire un autre, parce que je sens bien que vous êtes complètement...
Émoustillé.
Bah, émoustillé, oui, mais il y a des choses très, très belles. J'ai pas choisi, parce que, tu vois, quand je vais te lire ton sexe... C'est pas à toi que je m'adresse, hein, quand même,
C'est chaud dans ce studio, je vous laisse croire.
Ton sexe est un parfum, une brisure en fente douce. Je me sens tourbillon et je plante ma langue dans ta moiteur extrême. Tu entrebâilles tes cuisses blanches et j'y enferme mon sourire. Et un petit dernier, j'aime beaucoup celui-ci. Clapotis de muqueuse, chaloupement, langueur. J'apprends ta soif au bord de tes lèvres. J'apprends ta beauté noyée dans le ciel d'eau. J'apprends la lumière murmurante. Je suis vagabonde dans l'étendue docile de ton corps. Voilà, alors il y a tout un tas de très, très beaux textes. Ils sont très beaux. Ils sont... C'est d'un bel érotisme. C'est doux, c'est sensuel, c'est très beau. Tiens, je vous en fais un tout petit dernier, hein, pour la route. Un silence, presque rien.
un linge étendu, ton rire chanson d'eau, la cambrure de ta taille, la tiédeur de ta peau, habillée d'or sombre, peinte de fleurs, ton sein nu et mon désir obstiné dans le marais du soir. C'est écrit par une femme, hein, donc on sent, je ne vais rien dire. Moi, ça m'a beaucoup touchée. J'espère que ça vous a touché aussi.
Bah, le Marais, ça fait penser un petit peu au Bayou, la région où est né le blues, justement.
Voilà. Isabelle Voskaroudis, Himeros, les petits souffles du dedans.
Merci Laurence. Et s'il est des musiciens pour avoir envie de mettre en musique les textes d'Isabelle Voskaroudis, qui nous contacte à Osmose Radio, rue du Pourneuf, 84 000 Avignon. Voilà. Et chers amis, on arrive à la fin de cette émission, première émission de cette nouvelle saison d'Erosmose sur Osmose Radio. Merci à Nourdine et Jordan qui ont assuré derrière la régie technique. Merci Laurence et merci à vous, chers amis, mes chers petits fripons de l'autre côté du poste, d'être à l'écoute. Et bien entendu, vous pourrez retrouver ce podcast incessamment sous peu sur le site. Et si vous avez loupé quelque chose, rassurez-vous, on vous mettra et la bibliographie et la discographie sur les réseaux sociaux, facebook.com/erosmose avec un Z comme Zizi et pareil, twitter.com/erosmose avec un Z comme Zob. Voilà. Et on va conclure avec un morceau de musique. Et pour rester un petit peu dans le thème de l'émission de ce soir, ce sera un morceau de Gishy Wiley. Oui, celle-là même dont je vous parlais tout à l'heure, mais un morceau sur un ton fort différent, parce qu'on a parlé d'amour, de sexe, de violence aussi, de nombreux problèmes sociaux et de la condition des Noirs dans une société raciste aux États-Unis il y a fort longtemps et même encore un peu maintenant. Et l'amour, en fait, souvent, plus encore que le sexe brut, ce qui manque souvent, c'est la tendresse, et on surestimera jamais le pouvoir d'un mot gentil. Et justement, c'est avec ça que j'ai envie de conclure ce soir, chers amis, un mot gentil. The Last Kind Word Blues, le blues du dernier mot gentil, un titre de Gishy Wiley, un vieux blues des années 1920, en tout cas qui a été enregistré en 1930 par Columbia, de cette chanteuse dont on a perdu la trace très vite après. Voilà. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, chers amis, pour une nouvelle émission d'Erosmose. Notre collègue Claudine vous parlait de blues tout à l'heure dans Évidence. Bientôt il y aura des concerts à Château Renard, tenez-vous au courant si ça vous intéresse, et moi-même je vous parlerai à nouveau de blues dans l'heure du loup la semaine prochaine. Mais pour le moment, on se quitte avec Gishy Wiley. Merci Laurence, merci Nourdine.
Merci, aimez-vous.
Salut.
The last kind word I hear my daddy say, Lord, the last kind word I hear my daddy say, if I die in the German war, I want to send my body, send it my mother-in-law. If I get killed, please don't bury my soul. I just leave me out, let the buzzer see me go. When you see me coming, look across the Richmond field. And if I don't bring you flowers, I'll bring you both in you. I went to the depot, I looked up at the sun, cried, some train don't come, I'll be some walking done. My mama told me, just before she died,
lost, they said, daughter, don't you be the one. The Mississippi River, you know it, she's wide. I can't stand right here, be my babe from the other side. What you do to me, baby, it never gets out of me. I mean, I see you after I close the door.